à bâton rompu.
À bâton rompu.
À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Pierre Egea, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu pour ce deuxième entretien. Je rappelle à nos auditeurs qui vous êtes en deux mots. Vous êtes professeur de droit public à l'université Toulouse-Capitole, vous avez 58 ans, vous êtes membre de la paroisse Saint-Étienne dont nous avons parlé lors de notre premier entretien. Et il se trouve que, en vos qualités de professeur de droit public, qui avez été, au début de votre carrière, je crois, exercé dans les dom-toms, dans les universités, c'était aux Antilles, en Guadeloupe. Le président de la République vous a nommé avec un autre collègue, je pense, hein, c'est Frédéric Moulis.
Mont-Louis Félicité.
Mont-Louis Félicité, qui est aussi un professeur de droit. Non, pas du tout.
Non, c'est un économiste.
Un économiste. Donc vous êtes chargé de réfléchir à l'évolution institutionnelle des dom-toms. Alors, je voudrais d'abord comprendre comment fonctionne une telle mission, c'est-à-dire, ça, on vous a confié ça fin janvier, quand est-ce que vous devez rendre votre rapport, comment vous allez vous y prendre, etc. C'est quand même un vaste sujet. Parlez-nous un peu de cette mission, de son contexte.
Alors, c'est une mission qui nous a été donnée. Et nous avons été nommés, donc Frédéric Mont-Louis Félicité et moi, mais moi-même, effectivement par le président de la République. Donc c'est une mission présidentielle. Le président de la République nous a donné une feuille de route consistant à auditionner, nous rendre sur place, dans les différents outre-mer, entendre les différentes parties prenantes, que ce soit les présidents de collectivités, mais aussi la société civile, les forces vives de l'économie. Bref, d'obtenir un panel d'avis important pour nous, afin d'essayer de saisir quelles étaient leurs demandes, et, puisque des demandes, il y en a, et afin d'essayer de réaliser une sorte de synthèse pour des propositions qui correspondent aux souhaits de ces outre-mer. Nous avons comme pour tâche de nous rendre dans les territoires américains, c'est-à-dire Guyane, Guadeloupe, Martinique, dans les territoires de l'océan Indien, Réunion, Mayotte, puis en Polynésie. En revanche, notre mission ne couvre pas la Nouvelle-Calédonie.
Ah.
Puisque la Nouvelle-Calédonie, dans un processus tout à fait à part, à la suite du dernier référendum sur la question de l'indépendance. Et puis, la Corse non plus n'est pas dans notre mission, puisqu'on ne peut pas qualifier de la Corse d'outre-mer sans injurier la géographie. Donc, notre mission, elle est sur cette aire-là. Alors, il est évident que le fait que nous connaissions l'un et l'autre, puisque Frédéric Mont-Louis Félicité est d'origine martiniquaise, que j'ai vécu longtemps en Guadeloupe, tout ça n'est pas étranger au fait que nous ayons été désignés, puis en notre qualité aussi de spécialiste de ces questions. Et nous devons rendre un rapport en juin 2024, c'est-à-dire assez rapidement compte tenu du délai qui nous est imparti. Oui, on a commencé fin janvier. On a commencé nos travaux puisque nous sommes déjà partis en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Nous avons fait 45 auditions et puis nous allons persévérer et continuer, donc que ce soit à La Réunion, à Mayotte, puis en Polynésie. Mais la Polynésie est dans une position qui est moins demandeuse aujourd'hui, hein, sur le plan institutionnel, mais on reviendra sur cette problématique.
Et évidemment, j'imagine que sur le terrain, tout le monde n'a pas la même vision de ce qu'il faudrait faire. Sinon, ça serait facile. Comment vous faites, là? Parce que ça part à but et à dire, j'imagine.
Alors, effectivement, non seulement au sein de chacune de ces collectivités, les avis ne sont pas tous partagés, Nous avons des politiques qui ont des demandes qui sont assez uniformes quand même. Et puis ensuite, nous avons la société civile qui n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Et puis par ailleurs, chacune des collectivités évolue différemment. C'est-à-dire que la Guyane a des demandes, la Martinique a d'autres demandes, la Guadeloupe en a encore d'autres, la Réunion ne souhaite pas évoluer fondamentalement, la Polynésie est dans une sorte d'autonomie qui lui convient. Vous voyez, les situations sont totalement
distinctes. Et Mayotte ? Mayotte, c'est un peu explosif, quand même.
Mayotte est dans une situation qui est évidemment très, très complexe, avec un environnement difficile, particulièrement difficile, puisque Mayotte est une île, mais est une île d'un archipel. Et Mayotte est la seule île de cet archipel.
L'archipel des Comores.
L'archipel des Comores. Donc, et Mayotte est la seule île de cet ensemble. Qui restait française, avec un appel d'air incroyable de l'ensemble des Comores. Voilà. Donc on est dans une position et dans une situation à Mayotte qui est différente, mais il faut également évoquer le cas de la Guyane. La Guyane, c'est 700 km de frontière avec le Brésil. C'est-à-dire que le pays avec lequel la France globale a le plus de frontières, c'est le Brésil, devant l'Espagne.
Ah oui, c'est une chose, effectivement.
C'est assez étonnant.
Oui,
mais c'est pour vous dire que la situation de la Guyane est singulière. Les autres outre-mer sont des territoires, en définitive, relativement exigus. La Guyane, c'est le Portugal.
Ouais.
Et avec des frontières, 700 km avec le Brésil, 200 ou 250 km avec le Suriname, c'est très important sur le plan géopolitique. Et donc il y a des enjeux majeurs en Guyane et des enjeux qui, sur le terrain par exemple de la migratoire, sont très proches des enjeux que l'on trouve à Mayotte.
Ah oui.
Absolument.
Et oui, parce qu'en plus, cette frontière est impossible à garder, j'imagine. Ouais.
C'est une frontière en plein cœur de l'Amazonie. Pour ce qui concerne le Brésil, pour ce qui concerne le Suriname, c'est le Maroni. Et nous avons donc de tous côtés une immigration forte qui transforme le paysage même de la Guyane, puisque la Guyane, il y a 40 ans, c'est environ 60 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 300 000. Et dans les projections à 10-20 ans, c'est 700-800 000 habitants. Donc on a vraiment une progression tout à fait considérable. Ce qui est le cas contraire dans d'autres outre-mer, par exemple en Martinique, en Guadeloupe, on a beaucoup moins d'habitants. Il y a une déperdition démographique.
Et donc, dans votre mission, vous pensez arriver à trouver, à faire une proposition unique qui colle à tout le monde? Ou alors, d'après ce que vous me dites, vous allez dire, selon le contexte, on va peut-être proposer des statuts différents institutionnels, non?
Alors, on va déjà faire un certain nombre de diagnostics sur l'existant et sur les possibles aménagements. En sachant que le cadre juridique actuel, qui est en vigueur depuis une révision constitutionnelle de 2003, le cadre actuel distingue fondamentalement deux types de collectivités, ce qu'on appelle les départements et régions d'outre-mer, de l'article 73 de la Constitution, qui sont sous identité législative, c'est-à-dire que le droit hexagonal s'applique, par principe. Puis nous avons les collectivités d'outre-mer, de l'article 74 de la Constitution, par exemple la Polynésie française, qui, elles, sont sous un principe de spécialité législative, c'est-à-dire qu'elles ont une autonomie supérieure. Donc, déjà, il est possible, par exemple, pour une collectivité, la Guyane, qui est sous l'article 73, de passer à l'article 74. Donc la vraie question, c'est de savoir si on reste dans ce cadre ou si on le fait évoluer.
Eh bien, c'est une mission passionnante dont nous aurons l'occasion de reparler dans notre prochain entretien. Pierre Egea, merci pour tout cet éclairage sur les préoccupations de la présidence de la République au sujet de l'autonomie de nos territoires, hein, puisque c'est ça dont il s'agit à travers les DOTOM. Et encore, n'avons pas nous parlé de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un oubli fâcheux.
Un oubli fâcheux. Il y a peut-être moins de problèmes quand même, objectivement.
Oui.
Merci encore.
Merci à vous. Jean.